Le rendez-vous d'Haïti et des Amériques sur RFI. Maïwenn Bordron, bonjour.
Bonjour Edmond, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le flou au Venezuela autour de l'aide humanitaire qui doit entrer dans le pays samedi. C'est en tout cas ce qu'affirme Juan Guaido qui s'est autoproclamé président par intérim. Mais les militaires fidèles à Nicolas Maduro comptent bien bloquer la livraison de vivres stockés aux portes du pays. Personne ne passera, affirme le ministre vénézuélien de la Défense, vous l'entendrez. Le gouvernement vénézuélien qui a reçu le soutien de son allié cubain, le Venezuela n'est pas seul, peut-on lire dans la presse cubaine. Analyse à suivre dans la revue de presse des Amériques. Au programme également, le tourisme en Haïti affecté par la crise politique. Les manifestations ont débuté dans le pays il y a près de 15 jours et une partie de l'économie haïtienne est toujours paralysée. Retour sur la situation avec la ministre haïtienne du tourisme, notre correspondante à Port-au-Prince l'a rencontrée. Au Venezuela, la bataille autour de l'aide humanitaire se poursuit entre le pouvoir et l'opposition. Hier, les militaires fidèles au président Nicolas Maduro se sont dit déterminés, je cite, à défendre l'intégrité territoriale du Venezuela. Des milliers d'opposants se préparent, eux, à converger samedi vers les postes frontières colombiens et brésiliens pour récupérer des vivres stockés aux portes du pays. Ils répondent à l'appel de Juan Guaido qui s'est autoproclamé président par intérim. Le gouvernement les a toutefois mis en garde, personne ne passera. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, lors d'une conférence de presse. Écoutez-le.
Ils ne pourront pas passer du fait de la conscience, du patriotisme des hommes et des femmes qui composent les forces armées. Ils ne pourront pas passer en faisant usage de la force pour imposer un gouvernement au Venezuela, un gouvernement de marionnettes qui va vendre le pays, un gouvernement antipatriotique. Ils n'y parviendront pas, ou alors il faudra qu'ils passent sur nos cadavres. Nous insistons à nouveau sur le fait que le peuple, le pays vit dans le calme. Il y a des institutions qui fonctionnent. Il y a un peuple qui est dans les rues, qui travaille à son bonheur. Il y a un gouvernement qui exerce ses fonctions dans le cadre de la Constitution. Et il y a des forces armées nationales bolivariennes qui aujourd'hui, plus que jamais, ont conscience de leurs devoirs militaires et citoyens.
Militares, ciudadanos. Le ministre de la Défense vénézuélien Vladimir Padrino López, propos traduit par Romain Lemaresquier. On part également du Venezuela dans la presse. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Maïwenn, bonjour à tous.
Cap sur Cuba où le gouvernement se mobilise en faveur de son allié vénézuélien.
Oui, une mobilisation relayée par les médias d'État. Venezuela non está solo, le Venezuela n'est pas seul. Titre le journal en ligne Cuba Debate. Le site d'information publie également des extraits de la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez, reprenant l'argumentaire de Caracas. Le chef de la diplomatie cubaine accuse les États-Unis de préparer une attaque militaire contre le Venezuela. Un autre organe officiel, Granma, affiche sur sa une la colombe de la paix dessinée par Picasso, un message de soutien aux autorités de La Havane qui se sont déclarées solidaires avec le président Nicolas Maduro. Le gouvernement cubain utilise aussi les réseaux sociaux pour mobiliser la population. Il relaie en boucle le hashtag Manos Fuera de Venezuela, ne touchez pas au Venezuela, un slogan affiché également en grand sur le pupitre des présentateurs du journal télévision d'État à côté du drapeau vénézuélien.
Direction les États-Unis où la presse commente l'annonce de Bernie Sanders. Le sénateur s'est lancé une nouvelle fois dans la course à la présidentielle.
Oui, Bernie Sanders a surpris tout le monde, mais c'était en 2016, rappelle Washington Post, qui s'interroge, est-ce qu'il peut le refaire en 2020? Non, répond dans le même journal un éditorialiste qui explique que les idées de Sanders ont été reprises par d'autres candidats démocrates qui sont plus compétents et mieux placés que lui pour les défendre. Bernie Sanders tranche, cet éditorialiste garde certes une ambition présidentielle, mais le sénateur n'a aujourd'hui plus d'avenir politique.
Le Boston Globe se montre lui aussi dubitatif quant aux chances de l'ancien rival d'Hillary Clinton.
Bernie Sanders pourrait bien être victime de son succès de 2016, écrit le quotidien, car contrairement à ce qui s'est passé il y a 4 ans, il n'est plus le seul à endosser le costume du candidat progressiste. La plupart des prétendants démocrates défendent également la mise en place d'une couverture universelle de santé, la gratuité des universités publiques et un salaire minimum. En fait, en 2016, Bernie Sanders a déjà gagné la bataille pour l'orientation idéologique du parti, explique un ancien conseiller dans le Boston Globe. Tout le monde copie à présent son agenda, poursuit-il. Il n'empêche, la base électorale des démocrates pourrait être séduite par un profil différent, un homme blanc et âgé. Pas sûr que cela marche encore en 2020, estime un politologue américain interviewé par le Boston Globe.
On part au Brésil, à Rio, où le gouvernement de Jair Bolsonaro affronte sa première grande crise.
Oui, le président a été contraint de se séparer de son secrétaire général, Gustavo Bebiano, soupçonné d'être impliqué dans une opération de détournement de fonds publics. Ce limogeage révèle surtout des divergences internes et le rôle prépondérant des fils du président dans la gestion de cette crise, écrit Folha de São Paulo. Carlos Bolsonaro, l'un des trois fils, avait traité Bebiano publiquement de menteur, ce qui rendait en fait impossible son maintien au poste du secrétaire général de la présidence.
Et c'est cette influence de l'entourage familial qui inquiète les militaires.
Exactement, c'est le titre d'ailleurs de Folha de São Paulo. Le militaire, vous savez, détient 8 des 22 portefeuilles du gouvernement. Cette crise, selon Carta Capital, fragilise le gouvernement au moment où il doit présenter ce mercredi son projet de réforme des retraites au Parlement, un projet qui repousse l'âge de la retraite à 62 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes. Il est actuellement fixé à 60 ans. Le gouvernement espère économiser l'équivalent de plus de 200 milliards d'euros en 10 ans. L'enjeu est de taille. En cas d'échec de la réforme, le Brésil courra à la ruine dans 2 ou 4 ans, a affirmé Jair Bolsonaro. Selon Carta Capital, les débats parlementaires pourraient durer au moins 5 mois.
Haïti, pour terminer cette revue de presse, à Rime Haïti, un pays dont la population vit entre rareté et inquiétude.
Oui, depuis les dernières mobilisations, certains produits sont de plus en plus rares dans le département du Sud, plus précisément dans la ville des Cayes, rapporte le journal Le National. Les commerces reprennent timidement leurs activités, mais hier mardi, les écoles de la troisième ville du pays sont restées fermées. Cela fait 2 semaines déjà que les parents gardent leurs enfants à la maison. En dépit des mesures annoncées par le gouvernement, la population est face à une situation de peur qui se généralise, écrit Le National.
Merci Arim Lipold pour votre revue de presse des Amériques. Arim, vous en parliez, un certain calme semble être revenu en Haïti après le début des manifestations il y a près de 2 semaines. Mais la situation reste tendue car aucune solution n'a été trouvée pour mettre fin à la crise politique. Une partie de l'économie est toujours paralysée, ce qui commence à avoir de lourdes conséquences, notamment pour le secteur du tourisme. Et cela pourrait perdurer. Haïti fait désormais partie de la liste des pays à éviter, selon les États-Unis. La ministre haïtienne du tourisme, Marie-Christine Stephenson, se dit préoccupée par la situation. Notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron, l'a rencontrée.
Des touristes évacués des hôtels en hélicoptère, l'impossibilité de circuler à travers le pays, la crise qui touche Haïti depuis le 7 février a eu un impact dévastateur sur l'économie touristique.
Il est un peu tôt pour nous pour connaître l'ensemble des dégâts, mais une chose est sûre, c'est que ça a été catastrophique.
Suite à ces manifestations violentes, il y a notamment les États-Unis qui ont mis leur travel warning au plus haut niveau, comme peuvent l'être aujourd'hui des consignes pour des pays en guerre comme la Syrie ou le Yémen ou l'Afghanistan. Cette décision tue le tourisme.
Oui, absolument, Amélie. Cette décision que nous estimons exagérée, et je comprends tout à fait la démarche des ambassades, cela dit. Cependant, nous estimons quand même que ce level 4 est exagéré dans la mesure où il s'agit d'émeutes extrêmement ponctuelles. Bien sûr, ça a duré 10-12 jours, mais je ne suis pas sûre que d'autres pays de la Caraïbe qui connaissent eux aussi leurs propres problèmes, leurs propres émeutes, etc., sont aussi durement pénalisés et aussi rapidement pénalisés que nous-mêmes. Donc, j'estime que nous devons mettre les efforts, faire des doubles efforts pour que nous puissions trouver une issue et que Haïti soit repositionné à sa juste place.
Redoubler d'efforts pour replacer Haïti sur la carte touristique, pour la ministre, il en va de l'avenir de la jeunesse et plus largement du développement du pays.
Il n'y a pas beaucoup d'emplois en Haïti. Donc quand vous avez un secteur qui donne de l'emploi régulier et qui garantit que les jeunes qui ont suivi une formation en Haïti ne partent pas au Chili, ne partent pas en République dominicaine, mais absorbent ces jeunes-là localement, ce secteur doit être valorisé. Il y a là vraiment lieu de se poser la question, à savoir, est-ce que nous voulons changer de formule pour se remettre, pas sur la carte touristique, mais sur la carte du développement. C'est vraiment ce pourquoi j'ai accepté de rentrer dans ce défi qui, pour moi, est le seul défi qui puisse nous sortir de la misère dans laquelle nous sommes. Alors, bien sûr, en tirant les autres secteurs, c'est-à-dire l'agriculture, le textile, tous les autres secteurs peuvent travailler en synergie pour pouvoir donner du développement. Mais sans le tourisme, dans un pays caribéen, je crains que nous soyons dans une logique finalement qui n'apporte pas le développement, parce que nous devons faire preuve d'ouverture. Et l'ouverture, ça ne peut pas être le lock.
Opération Lock, c'est le nom qu'avait donné l'opposition à ce mouvement de contestation. Les plus radicaux appellent à un nouveau cycle de manifestations car ils réclament toujours la démission du président. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
La ministre haïtienne du tourisme, Marie-Christine Stephenson, au micro de notre correspondante en Haïti. Au Brésil, les peuples indigènes toujours très inquiets suite aux premières annonces du gouvernement de Jair Bolsonaro. Le nouveau président d'extrême droite veut mettre en place un plan d'urbanisation en Amazonie, une zone qu'il juge improductive. Jair Bolsonaro a annoncé par exemple la construction d'un barrage hydroélectrique sur un affluent de l'Amazone ou encore le prolongement d'une route nationale de près de 500 km. Le pire est donc à venir, comme l'affirme Laurent Durieux. Il est chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et spécialiste du Brésil. Il répond à Stéphanie Schuller.
Déjà pendant la campagne, le candidat Bolsonaro a clairement exprimé qu'ils allaient complètement modifier l'Amazonie, notamment sur les questions des terres indigènes. Et aussi, ils ont eu des messages clairement agressifs contre l'État actuel, parce que le Brésil a depuis longtemps mis en place une politique de protection de ses peuples indigènes. Elle est basée sur deux choses, elle est basée sur leur culture et sur leurs terres. Et donc, dès le 1er et le 2 janvier, ils ont essayé de faire passer des textes pour attaquer ce qui était en place depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire des textes sur la propriété, avec notamment la FUNAI, la Fondation Nationale de l'Indien, qui est mise en place pour protéger ces droits des peuples, qui dépendait du ministère de la Justice et qui dépendrait maintenant, si les textes sont approuvés, du ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, qui est défendu par l'agrobusiness de manière générale, clairement va pousser à un démantèlement de ces réserves et c'est un risque vraiment majeur pour ces peuples, bien sûr.
Est-ce qu'il y a aussi, en fait, des initiatives privées contre les Indiens du Brésil qui émaneraient de l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro ou du climat qui s'installe autour de ça?
Alors c'est vrai que ce climat, il est assez délétère et c'est vrai qu'on a vu des scènes de personnes qui agressaient verbalement et parfois physiquement ces indigènes. La loi est toujours là pour les protéger, la loi n'a pas changé depuis que M. Bolsonaro est au pouvoir. Je pense que les institutions brésiliennes vont se réveiller, je l'espère en tout cas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les gens imaginent qu'ils peuvent faire ce qui a été dit, qui n'est pas constitutionnel. Et je pense que c'est le moment que le Brésil se réveille et comprenne effectivement les risques de continuer dans cette direction, qui sera certainement pas approuvée au niveau international, d'autant que une réserve naturelle sans peuple indigène a beaucoup plus de chances d'être déforestée, d'avoir des orpailleurs. Non seulement ils sont les protecteurs, mais ils sont à l'origine de la forêt amazonienne.
Quelle est selon vous aujourd'hui la principale menace qui pèse sur les peuples amérindiens au Brésil?
Alors je vous répondrai de manière très égoïste, c'est que la principale menace, elle n'est pas que sur eux, elle est sur nous tous. C'est-à-dire que eux, ils ont une culture où justement ils n'ont pas séparé l'homme de la nature. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Et leur risque, bien entendu, c'est de perdre leur terre, c'est d'avoir leur société qui est déstructurée, c'est d'avoir les jeunes Amérindiens qui ne veulent plus défendre leur culture parce que ça devient trop compliqué, ça devient trop dangereux. Et que du coup, la culture se perde et que du coup aussi, de protéger la forêt ne soit plus une priorité pour les sociétés locales d'Amazonie. Donc voilà, le risque, il est pas que pour eux, il est pour nous tous. C'est une responsabilité, je pense, de tout le monde.
J'allais vous poser justement la question de savoir, est-ce qu'il y a une sorte de résistance qui s'organise?
Alors la résistance est là, mais c'est toujours le risque avec la résistance, c'est d'aller vers le conflit. Et comme les discours sont déjà très autoritaires, on n'a pas envie d'aller vers un conflit. C'est vrai que moi, c'est une de mes craintes personnelles. Je ne voudrais pas avoir mes amis amérindiens massacrés comme on l'a fait il y a 500 ans. Enfin, je veux dire, on n'en est plus là aujourd'hui. Et donc, ça ne doit pas être un conflit, ça doit être un dialogue. Le dialogue, il doit aussi prendre en compte les enjeux globaux. C'est-à-dire que l'Amazonie, c'est 20% de l'eau douce mondiale. Ce sont des enjeux énormes de biodiversité. Si ces lois passent comme elles ont été proposées, je pense qu'on sera dans un conflit. Il faut, avant qu'elles ne le passent, qu'on engage un dialogue et qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ces textes qui ont été proposés ne sont tout simplement pas possibles.
Mais comme vous dites, on engage un dialogue, c'est la communauté internationale qui engage un dialogue avec le Brésil, c'est qui engage le dialogue?
Alors, ce sont d'abord des associations, au Brésil, des associations de peuples indigènes qui sont en place depuis plus de 30 ans, mais il y a aussi des discours, comme par exemple le soja en Amazonie. Si le Brésil sortait de la COP21, l'Europe a menacé de mettre des taxes sur le soja brésilien. Donc, effectivement, il y a un dialogue qui est international.
Laurent Durieux, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste du Brésil, au micro de Stéphanie Schuller. Le journal de la première présenté par vous aujourd'hui, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Maïwenn.
Benoît, le secteur du tourisme a le vent en poupe en Guadeloupe.
Oui, c'est une bonne nouvelle, confirmée par les tout derniers chiffres de l'INSEE. En Guadeloupe, la fréquentation des hôtels a augmenté en moyenne de 11,5% au troisième trimestre 2018. Franck Aristide.
14% de touristes de plus qu'en 2017 venus de l'Hexagone, un peu moins par contre venus de l'étranger. Au final, même durant la basse saison, la Guadeloupe a séduit. Malgré les échouages de sargasses, durant les dernières grandes vacances, à en croire les hôtels, les visiteurs étaient au rendez-vous. Du non classé aux 5 étoiles, les 49 établissements de l'île et les 6000 lits ont bien souvent trouvé preneur, aussi bien dans le sud Grande Terre, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, qu'Adéhé, le second pôle touristique chez nous, juste devant Terre de Haut. Phénomène particulièrement remarquable, c'est le haut de gamme qui a surtout tiré son épingle du jeu. Les hôtels 4 et 5 étoiles ont connu un véritable engouement et leur fréquentation a plus que doublé en un an. Une attractivité suscitée par la rénovation et ou la modernisation des structures existantes et ainsi parée de ses nouveaux atours, l'archipel a su faire face à la concurrence des autres destinations touristiques du bassin caribéen.
Direction maintenant la Martinique avec un tout autre sujet, le ras-le-bol des usagers des transports en commun dans Fort-de-France et sa région. Des usagers confrontés depuis plus d'une semaine maintenant à un énième conflit social. Cette fois-ci, c'est au sein d'une société co-traitante du réseau de bus Mosaïque. Pour les usagers, eh bien c'est simple, ils n'ont qu'à se débrouiller. Reportage Pierre-Yves Honoré.
Personne ne réagit, tout le monde pointe du doigt un tel, c'est de la faute d'un tel et on est dans une gaminerie perpétuelle, c'est vraiment puéril, on n'avance pas.
Nous l'appellerons Isabelle, cette secrétaire ne décolère pas à cause du conflit des bus Mosaïque. Se rendre au travail devient chaque jour très compliqué.
C'est Pierre au départ.
Pour effectuer les 12 minutes de trajet jusqu'au pont Châteaubœuf en taxico, c'est plein tarif.
Je trouve ça vraiment inacceptable.
Christine est aide-soignante à la maison de retraite de Thierville. Faute de transport, un soir, elle a dû regagner à pied son domicile de Fort-de-France.
C'est très compliqué, il est 20h33 en fait, et à 7h, il n'y a plus de bus. Et c'est comme ça tous les jours depuis bon nombre de temps.
En général, elle utilise le covoiturage ou alors elle fait appel au taxi. Mais l'addition est plutôt salée.
220 euros pour le taxi, sachant que je pouvais bénéficier du covoiturage quelques jours. Donc sinon, ça allait me faire beaucoup plus.
Pour de nombreux salariés silencieux, le blocus des bus Mosaïque commence à lourdement peser sur leurs finances. Et aussi sur les nerfs.
Bon après-midi, Maïwenn. À demain.
Merci, Benoît Ferrand. Bonne journée à vous et à demain. On termine ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques en musique avec le dernier album de Leila Makkala, une chanteuse d'origine haïtienne qui est née et qui a grandi aux États-Unis. On écoute le morceau La vie vieneg de son album Capitalist Blues.
La vie vieneg, comme c'est sous crêpe solonne, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vieneg, j'ai sous le soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. Là, je pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là, je pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. La vie vieneg caprichée sous crêpe soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vieneg caprichée sous crêpe soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. Là je pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là je pas fait pour nos poches malhérées,
Mes amis, là, j'en pas fait boulot. Non, pas, je parlais.